Je vous présente maintenant notre conférencier de ce soir, Raymond Boudon. Il est né en 1934, il est sociologue, mais j'ajoute aussi qu'il est philosophe. Je fais partie de ces sociologues français à forte dimension philosophique. J'espère qu'il ne m'en voudra pas d'évoquer Durkheim pour parler de cette double dimension. Il est actuellement professeur de sociologie à l'université Paris 4 Sorbonne. Il a été chercheur au CNRS, puis professeur à l'Université de Bordeaux, professeur à la Sorbonne à partir de 1971. Et il a été entre-temps aussi fréquemment professeur à l'Université de Genève. Et depuis 1981, il est professeur à l'Université de Paris 4, Paris-Sorbonne. Il a été invité dans de très nombreuses universités étrangères, aux États-Unis, Columbia, Harvard, à Genève, Stockholm, Chicago, etc., Oxford. Bon, c'est un parcours tout à fait exemplaire de grand universitaire. Ses travaux ont porté sur l'école et le système scolaire en rapport avec la société, mais aussi sur la notion d'ordre social, sur les valeurs dans la société, les croyances collectives et les modes de cognition, et notamment dans leur dimension sociale. Il a publié de très nombreux articles spécialisés dans des revues spécialisées nationales et internationales, mais vous pouvez trouver aussi des livres, des ouvrages disponibles dans le commerce. J'en signale quelques-uns, pas tous, parce qu'ils sont très nombreux, mais les effets pervers et ordre social, qui est paru aux presses universitaires de France en 1977, mais que vous pouvez trouver en quadrige, en collection de poche, donc aux presses universitaires. La logique du social, qui est paru chez Hachette en 1979 et qui est en poche aussi dans la collection plurielle chez Hachette. Un dictionnaire critique de la sociologie, en collaboration avec François Bourricot en 1982. La place du désordre, critique des théories du changement social, 1984 aux presses universitaires, mais qui est aussi en collection de poche quadrige. L'idéologie ou l'origine des idées reçues, chez Fayard, en 1986, et qui est en poche aussi en seuil point. L'art de se persuader, chez Fayard, 1990, aussi maintenant en poche. Le juste et le vrai, étude sur l'objectivité des valeurs et de la connaissance, Fayard, 1995. Le sens des valeurs, quadrige, 1999 au PUF. L'explication des normes sociales, etc. J'ajouterai qu'il est membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Je lui laisse la parole pour une cinquantaine de minutes pour nous parler des croyances collectives et ensuite il répondra à vos questions pendant une vingtaine de minutes. Merci.
Merci, je suis très heureux d'avoir à m'exprimer dans le cadre de l'Université de tous les savoirs, une université où j'ai eu moi-même plusieurs fois l'occasion de m'instruire. Dans cet exposé sur les croyances collectives, je prendrai le mot « croyance » au sens large, comme le substantif formé sur le verbe « croire ». Il désignera le fait de croire à une proposition, à une théorie, etc., que cette théorie ou cette proposition soit fondée ou non. Je qualifierai donc tout uniment comme des croyances le fait de croire que la suite des nombres premiers est infinie ou de croire à l'efficacité des rituels de pluie. Cette définition de la notion de croyance, cette définition large, appelle immédiatement une question. Lorsque les croyances sont valides, on n'a pas de difficulté à les expliquer. On n'a aucune peine à expliquer que la plupart des gens croient que 2 et 2 font 4. Ils croient que 2 et 2 font 4 tout simplement parce que 2 et 2 font 4. Comment expliquer en revanche les croyances dont on sait qu'elles sont fausses, comme les croyances en l'efficacité des rituels de pluie qui sont pratiqués dans certaines sociétés traditionnelles ? Comment expliquer que ceux qui les pratiquent y croient alors qu'elles sont dépourvues de fondement ? L'analyse des croyances collectives en ce sens est l'un des sujets essentiels de la sociologie, au point que la plus grande figure de la sociologie française, Émile Durkheim, a déclaré qu'il représentait le sujet principal de la sociologie. Cette analyse pose en effet une question théorique fondamentale qu'on peut formuler : quels sont les mécanismes par lesquels des individus appartenant à un groupe social au sens très large de ce mot croient-ils la même chose, surtout lorsque, comme dans le cas des rituels magiques, ces croyances paraissent dépourvues de fondement. La sociologie comparative pose une question complémentaire, celle de savoir pourquoi on observe des différences remarquables dans les croyances des groupes sociaux fort proches par bien d'autres aspects. Les sciences sociales ont rencontré ce type de questions dès leurs origines. Ainsi, Adam Smith s'interroge déjà au XVIIIe siècle sur les raisons d'être de ce qu'on appelle aujourd'hui l'exception religieuse américaine. Pourquoi les Américains apparaissent-ils si religieux alors que les Anglais le sont beaucoup moins, demande Adam Smith au XVIIIe siècle. Cette question donne toujours lieu à des recherches, car la différence persiste très fortement de nos jours. Tocqueville, au milieu du XIXe siècle, se demande pourquoi le culte de la raison, avec un grand R, a fait dans la France de la fin du XVIIIe siècle l'objet d'un culte qui faisait sourire les Anglais. Comment expliquer ces phénomènes de ressemblance et de différence ? Bref, ces observations de la sociologie posent deux questions fondamentales. Par quel mécanisme des individus appartenant à un groupe au sens large croient-ils la même chose, surtout lorsque la croyance est non fondée ? Pourquoi des individus appartenant à des ensembles sociaux fort proches par toutes sortes d'aspects, comme les Anglais et les Français de la fin du XVIIIe siècle, ou les Anglais et les Américains de la même période ou d'aujourd'hui d'ailleurs, apparaissent-ils comme si différents du point de vue de leur croyance ? La sociologie n'est d'ailleurs pas la seule discipline à rencontrer ce type de problème. Ainsi, la psychologie cognitive a réalisé d'innombrables expériences où les sujets donnent à une très forte majorité une réponse fausse, voire une réponse franchement fausse à des questions, à des problèmes relevant par exemple de l'estimation statistique. Alors que la probabilité d'apparition d'un événement est très faible, beaucoup de sujets vont la percevoir comme beaucoup plus forte qu'elle n'est. On a tendance à sous-estimer la probabilité de subir un accident de voiture et à surestimer la probabilité de subir un accident d'avion. Ici aussi se pose le problème de l'explication des croyances se caractérisant par le double fait qu'elles apparaissent indépendamment dans la tête de multiples sujets et qu'elles sont fausses. Il est un secteur, pour déblayer un peu le terrain, où l'explication des croyances fausses paraît ne pas faire de problème. C'est celui des croyances scientifiques. Qu'elles soient vraies ou fausses, personne ne mettrait en doute qu'elles sont dues à des raisons, que leurs causes sont des raisons, qu'elles sont le résultat d'une délibération ou d'une discussion rationnelle. Pour prendre un exemple, avant Torricelli et Pascal, on croyait que pour expliquer le phénomène du baromètre, pour expliquer que le mercure monte dans une éprouvette où on a fait le vide et qu'on retourne sur une cuve remplie de mercure, il fallait recourir à la notion de l'horreur du vide à laquelle la nature serait sujette. Cette croyance, que partageait un Descartes, par exemple, nous paraît aujourd'hui étrange parce qu'elle a été définitivement discréditée par les objections de Pascal. Au lieu de faire appel à la notion de l'horreur du vide, on peut expliquer le phénomène par le poids de l'atmosphère. Non seulement on se dispense ainsi d'introduire une notion anthropomorphique, celle de l'horreur du vide, mais avec la théorie de Pascal, on peut prédire le comportement du mercure dans des circonstances variées. Elle explique que le mercure ne monte pas aussi haut au sommet qu'à la base de la tour Saint-Jacques ou du Puy de Dôme, ce que la théorie d'inspiration aristotélicienne, à partir de la notion de l'horreur du vide, ne permet pas d'expliquer. De surcroît, la théorie de Pascal impute le phénomène de la montée du mercure à une cause matérielle dont on peut démontrer l'existence, le poids de l'air. À partir de ce moment-là, les explications par l'horreur du vide se sont trouvées disqualifiées. Mais si plus personne n'y croit plus, si on la trouve normalement étrange, cette explication par l'horreur du vide, on n'accepte pas non plus de donner une cause irrationnelle à la foi d'un Descartes, par exemple, en cette notion. Il est beaucoup plus acceptable de remarquer qu'il n'avait pas d'autres notions à sa disposition, que l'explication alternative de Pascal n'était pas disponible de son temps, et que, loin de relever de l'évidence, la théorie du baromètre de Torricelli-Pascal représente, au contraire, une innovation scientifique spectaculaire. Bref, on explique normalement les croyances scientifiques avérées, mais aussi les croyances scientifiques fausses et disqualifiées, de façon rationnelle. Sans doute, les discussions scientifiques mettent-elles aussi en jeu des facteurs irrationnels ? Elles peuvent être plus ou moins longues, compliquées, elles peuvent mettre en jeu des passions, des rapports de force, en dehors des échanges d'arguments, naturellement. Cela a été démontré à propos de multiples controverses qui ont fait l'objet d'études particulières, qu'il s'agisse de la controverse du vitalisme, de la controverse entre Pasteur et Pouchet sur la génération spontanée, de la controverse sur le langage des abeilles. une étude très minutieuse sur ces dernières controverses a mis en évidence des phénomènes de manipulation. Par exemple, en 1953, von Frisch reçoit le prix Nobel pour avoir découvert le langage des abeilles. Mais dès ce moment, certains émirent des doutes sur la véracité de la théorie. Mais il se trouve que les réunions scientifiques, les séminaires, les colloques, les congrès qui se sont réunis sur la question se sont généralement tenus exclusivement entre partisans de la théorie de von Frisch. Ces rencontres scientifiques contribuèrent à apporter des éléments confirmant la théorie, mais les sceptiques et les critiques n'avaient guère l'occasion de s'y exprimer. Malgré l'intervention de ces facteurs irrationnels, de caractère sociologique ou psychologique, on peut dire que le processus de sélection des idées dans le domaine scientifique est rationnel. Sont finalement retenus, quelquefois après des épisodes où ces facteurs irrationnels jouent à plein, les idées qui sont objectivement les meilleures par rapport à certains critères. Car si les acteurs impliqués sont des êtres passionnés, ils agissent sous le regard de tout un public, de chercheurs travaillant sur des sujets identiques ou proches, de chercheurs appartenant à des spécialités voisines, de journalistes scientifiques, etc., etc., qui, lui, ce public, n'a évidemment pas les mêmes passions. C'est bien parce qu'on peut, pour des raisons précises, préférer la théorie du baromètre de Pascal à la théorie d'inspiration aristotélicienne que celle-ci a été irréversiblement retenue. S'agissant des croyances scientifiques, celles-ci peuvent donc être vues, sur le long terme du moins, comme le résultat d'une discussion rationnelle, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse. Qu'en est-il maintenant s'agissant de croyances qui paraissent infondées, comme les croyances en des relations de causalité imaginaires qui définissent la magie, ou les croyances qui, par principe du moins, ne paraissent pas pouvoir être solidement fondées, comme les croyances prescriptives ou les croyances normatives, celles qui traitent non de l'être, mais du devoir-être. Une première ligne de pensée propose de répondre à ces questions en évoquant l'existence, pour parler comme le prix Nobel d'économie Gary Becker, de forces psychologiques, de forces biologiques ou de forces culturelles qui feraient que, dans telle culture, dans tel groupe ou dans tel ensemble d'individus, l'esprit humain obéirait à des règles d'inférence particulières, serait affecté par des biais, fonctionnerait dans des cadres mentaux particuliers. Bref, il existerait des forces ayant leur origine dans la culture surtout, et à travers la culture ayant une influence sur la pensée individuelle, force qui ferait qu'on ne pense pas ici de la même manière que là, qu'on ne raisonne pas ici de la même manière que là, qu'on ne croit pas à cet endroit ce qu'on croit à un autre. Ce type d'hypothèse a été mis sur le marché au tournant du 19e et du 20e siècle, notamment par Lucien Lévi-Brulle. Et à sa suite, elle a été défendue de manière brillante par de très nombreux auteurs. S'il importe de l'évoquer, c'est qu'elle est toujours présente et même très installée dans les sciences sociales d'aujourd'hui. Lévi-Brulle expliquait les croyances magiques, par exemple, par le fait que les « primitifs », entre guillemets, comme on disait alors, les individus appartenant à des sociétés sans écriture ou à des sociétés archaïques, comme nous dirions plus volontiers aujourd'hui, que ces individus obéiraient à des règles d'inférence mentale différentes des nôtres. Ils seraient, par exemple, moins sensibles aux principes de contradiction. Ils ne distingueraient pas aussi facilement que nous les conditions qui permettent d'affirmer l'existence d'une relation de causalité. Cette idée est toujours défendue aujourd'hui sous des formes et dans des termes variés. Un éminent anthropologue britannique, Roy Needham, a naguère même déclaré que Lévi-Brulle restait un auteur de toute première importance parce qu'il aurait démontré l'influence du contexte culturel sur les règles de la pensée. L'hypothèse de base de Lévi-Brulle se retrouve par exemple chez le sinologue, Granet, qui a soutenu que les caractéristiques de la langue chinoise entraînaient un fonctionnement de la pensée différent de celui de la pensée occidentale. L'anthropologue américain Benjamin Whorf avait tenté de montrer dans la même veine que les particularités du langage des Hopi entraînaient chez ceux qui le parlent la mise en œuvre de règles d'inférence différentes des nôtres. Ces théories sont étayées par des observations méticuleuses. mais elle soulève des objections très sérieuses. D'abord, elle repose sur des hypothèses extrêmement lourdes, ouvrant sur des questions dont on ne voit pas facilement la réponse crédible qu'on pourrait leur apporter. Par exemple, par quel mécanisme la culture est-elle capable d'agir sur les règles d'inférence qui sont inconsciemment manipulées par les individus? Ensuite, ces théories apparaissent comme contradictoires avec de très nombreux faits. Pour prendre simplement un exemple, l'anthropologue britannique Evans Pritchard a montré que les Azandés du Sud-Soudan, illustratifs des sociétés archaïques, sont parfaitement sensibles à la contradiction logique, voire sont capables de manipuler, à un niveau relativement élémentaire, mais tout de même à manipuler, des systèmes de pensée assez complexes. Quand ils prennent des oracles, par exemple, ils versent un certain poison dans le bec d'un oiseau, une technique qui leur permet, selon eux, de déterminer la volonté des dieux. Si l'oiseau meurt, ils interprètent ce fait comme signifiant que les dieux ne veulent pas qu'ils partent en guerre contre leurs voisins. Mais pour être sûr de la volonté des dieux, ils répètent l'expérience en inversant le sens donné à la mort et à la survie de l'oiseau. S'il y a contradiction entre ces deux manifestations successives de la volonté des dieux, ils recommencent, jusqu'à ce qu'ils aient l'impression d'être en mesure de conclure sur ce que veulent vraiment les dieux. Cela démontre non seulement que les Azandés sont parfaitement sensibles au principe de contradiction, mais même qu'ils ont une aptitude au calcul logique et même une certaine notion du calcul des probabilités. Mais si on se fait un instant l'avocat du diable, supposons qu'on accepte les hypothèses lourdes qui admettent un effet de la culture ou du contexte culturel sur les règles implicites de la pensée ou sur le contenu de la pensée pour expliquer les différences entre les croyances des Azandés et les nôtres. Nous ne serions pas encore au bout de nos difficultés, car il est tout de même bien difficile d'admettre qu'on puisse recourir à ce genre de schéma pour expliquer les différences que j'évoquais il y a un instant et sur lesquelles je reviendrai, les différences concernant les croyances des Français et des Anglais ou des Anglais et des Américains. Heureusement, il existe une toute autre ligne d'explication des croyances collectives. Elle a été inaugurée par les plus grands des sociologues classiques, par le Français déjà cité Émile Durkheim et par l'Allemand Max Weber. J'évoquerai pour commencer la théorie que Durkheim propose des croyances magiques, c'est-à-dire pour fixer les idées de ces croyances qui, comme les croyances en l'efficacité des rituels de pluie, reposent sur des croyances en des relations de causalité inexistantes ou imaginaires. La théorie proposée par Durkheim de l'origine des croyances magiques, qui est présentée dans des passages éparpillés de ces formes élémentaires de la vie religieuse, fournit des croyances magiques une explication qui est beaucoup plus satisfaisante que celle de Lévi-Bruhl, dans la mesure où elle évite complètement d'analyser les croyances collectives comme les effets de forces culturelles entièrement conjecturales. On peut résumer la théorie de Durkheim de la façon suivante. Selon cette théorie, il faut d'abord reconnaître que le savoir du primitif, comme on disait de son temps, n'est pas celui de l'occidental. Il n'a pas, comme lui, été initié à la méthodologie de l'inférence causale ou à l'analyse statistique, et il n'a aucune raison de maîtriser les principes de la biologie ou de la physique. La conduite dans ce type de société, la conduite de la vie quotidienne, mais aussi la production agricole, la pêche, l'élevage, repose bien sûr dans ces sociétés traditionnelles sur toutes sortes de savoir-faire. Pour une part, ceux-ci sont tirés, comme chez nous, de l'expérience. Mais les données de l'expérience ne peuvent prendre sens que sur le fond de représentations générales et théoriques de la vie, de la croissance, de la mort, de la nutrition et de manière générale des processus vitaux. Comme ces représentations ne peuvent pas être directement tirées de l'expérience, le primitif, entre guillemets, les tirera normalement du corpus de savoir qui est disponible dans la société qui est la sienne et qui est tenu pour légitime dans la dite société et qu'il a à sa disposition. Dans le cas des sociétés qu'envisage Durkheim, sociétés archaïques de l'Australie, ce sont les doctrines religieuses qui fournissent les explications du monde permettant de coordonner les données de l'expérience sensible. Ces doctrines nous dit Durkheim, joue donc dans les sociétés traditionnelles le rôle de la science dans notre propre société, au sens où elle représente le corpus, la source du savoir légitime. Quant aux croyances magiques, elles ne sont pas autre chose que les recettes que le primitif tire de la biologie, entre guillemets, qu'il construit à partir des doctrines en vigueur dans sa société, exactement comme nous tirons de la science des techniques. Une question et une objection se présentent alors naturellement immédiatement à l'esprit. Il y a tout de même une différence entre les recettes qu'on tire de la science et celles qu'on tire de la religion, c'est que les recettes magiques manquent d'efficacité. Les croyances et les attentes qui se développent à partir de ces théories tentent, dans d'autres termes, à être contredites par le réel une fois sur deux. Comment se fait-il alors que la crédibilité en leur efficacité se maintienne ? Conscient de cette objection qu'il énonce lui-même, Durkheim explique le fait que les croyances magiques ne soient pas remises en cause par le verdict négatif une fois sur deux, en gros, de l'expérience, par toute une série d'arguments extrêmement efficaces. Tout d'abord, la critique d'une relation causale ou d'une conjecture causale n'est pas toujours facile. Elle suppose que soient réalisées des conditions quasi-expérimentales qui ne sont normalement pas. De plus, une telle critique peut n'être possible que grâce à la mobilisation d'instruments statistiques dont ces individus des sociétés archaïques, naturellement, ne disposent pas. Deuxième argument, si l'on considère l'histoire de la science, ce qu'on observe extrêmement souvent, c'est que lorsqu'une théorie scientifique est contredite par des faits, ce qui se passe, c'est que les savants tendent à conserver la théorie en question et non pas du tout à la rejeter. Autrement dit, la confiance dans une théorie scientifique n'est pas toujours immédiatement ébranlée par le fait que la dite théorie apparaisse comme en contradiction avec certaines données. Ce point a été développé abondamment par la philosophie des sciences contemporaines qui a mis sur le marché ce qu'on appelle la thèse dite de Duhem-Quine, Duhem, du nom d'un historien de la physique et d'un physicien contemporain de Durkheim, et de Quine, un philosophe américain contemporain mort il y a quelque temps. La thèse de Duhem-Quine nous dit qu'une théorie scientifique, c'est un ensemble de propositions, de notions plus ou moins compliquées. Lorsque une théorie scientifique est contredite par des données de l'observation, on ne sait pas du tout, a priori, quelle est la partie de la théorie qui est déficiente et qui engendre la contradiction avec le réel ? Comme on ne sait pas du tout quelle est la partie de la théorie qu'il faut changer, on a tendance à avoir la position selon laquelle cette théorie est bonne, mais mériterait d'être amendée sur des points, éventuellement sur des points mineurs. Et pendant très longtemps, on va espérer que la théorie pourra être amendée sur des points mineurs de manière à être rendue compatible avec les données. Autrement dit, quand une théorie scientifique est contredite par des données d'observation, très normalement, qu'est-ce que fait le scientifique ? Il la garde. Il la garde et il essaye de la ravauder, il essaye de l'amender jusqu'à ce qu'il soit finalement persuadé qu'elle n'est pas acceptable et qu'il faut la remplacer par une autre. Eh bien, ce que nous dit Durkheim, ce que fait le scientifique, c'est exactement ce que fait le magicien. Quand une loi scientifique a pour elle l'autorité d'expériences nombreuses et variées, il est contraire à toute méthode d'y renoncer trop facilement sur la découverte d'un fait qui paraît la contredire, nous dit Durkheim. C'est exactement ce qui deviendra ensuite la thèse de Duhem-Quine. Cette thèse a été formulée à l'origine par le fait que Duhem, dans ses études sur l'histoire de la physique, a constaté de façon tout à fait évidente que les physiciens conservaient pendant très longtemps, des théories qui allaient ensuite être condamnées par l'histoire de la physique. Donc l'idée de Durkheim, c'est que l'esprit du magicien fonctionne exactement selon les mêmes principes que celui du scientifique. Quand la théorie en laquelle il croit rencontre la contradiction de l'observation, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire exactement ce que fait le scientifique, c'est-à-dire recourir à des hypothèses auxiliaires permettant de réconcilier provisoirement la théorie avec l'observation. Ces hypothèses auxiliaires vont consister, par exemple, à dire que les dieux étaient de mauvaise humeur ce jour-là, que des facteurs non identifiés ont perturbé l'expérience, que la quantité de poison versée dans le bec de l'oiseau ne correspondait pas à la quantité de poison prescrite, etc. Logiquement, Ce sont des hypothèses auxiliaires qui permettent de réconcilier la théorie avec l'observation. Il faut ajouter à cela que pour que la foi en une théorie s'estompe, non seulement il ne suffit pas qu'elle soit contredite par des faits, mais il faut qu'une théorie alternative vienne la remplacer ou se propose comme candidate à son remplacement. Dans nos sociétés, ou dans le fonctionnement de la communauté scientifique, normalement, il y a un marché des théories, il y a une production constante de nombre de théories, de telle sorte que la concurrence entre les théories s'installe facilement. Dans les sociétés traditionnelles, naturellement, on n'a pas du tout ce même processus de production ou de fabrication de théories nouvelles. Le marché de fabrication des théories y est beaucoup moins productif. C'est pourquoi c'est une raison supplémentaire pour laquelle les théories en vigueur, même si elles sont contredites par la réalité, vont avoir une certaine tendance à être conservées. De surcroît, la réalité peut confirmer, renforcer, corroborer des croyances fausses. Hegel disait qu'il y avait une ruse de la raison. Durkheim nous dit qu'il y a aussi une ruse de la nature. Une ruse de la nature va vous faire croire que ce que vous croyez qui est faux est quand même vrai. Pourquoi ? Ben prenons le cas des rituels de pluie. Les rituels de pluie, on va les effectuer dans la saison des pluies, au moment où les plantes ont besoin d'être alimentées en eau. Et on ne va pas les effectuer dans les périodes de sécheresse. De telle manière que si vous construisez un petit tableau statistique avec deux variables binaires, où d'un côté vous prenez les jours de l'année où l'on a pratiqué les rituels, et puis les jours de l'année où on ne les a pas pratiqués, d'un côté, et puis de l'autre côté les jours de l'année où il a plu, et les jours de l'année où il n'y a pas plu, et bien il y aura une corrélation au sens statistique. La probabilité et la fréquence avec laquelle la pluie est tombée apparaîtra comme plus grande les jours où vous avez fait les rituels que les jours où vous n'avez pas fait. Donc il y aura une fausse corrélation, ce qu'on appelle une corrélation fallacieuse, mais très souvent, même dans nos sociétés modernes, c'est sur la base de corrélations fallacieuses qu'on s'appuie pour affirmer l'existence de relations de causalité. Les Australiens primitifs ne se comportent pas différemment de nous. Lorsque nous constatons, par exemple, que tel régime alimentaire des Japonais fait qu'ils ont moins de cancer, on en déduit assez facilement l'idée que c'est le régime alimentaire en question qui a une vertu protectrice sur le cancer. C'est une corrélation qui n'est plus ni moins solide que celle du magicien australien de Durkheim. Par contre, ce soit Durkheim, je le dis lui-même, l'efficacité physique n'est pas sans trouver dans les données de l'observation objective une confirmation au moins apparente. Durkheim suggère au total que les croyances magiques que l'on observe dans les sociétés traditionnelles et que l'on perçoit comme irrationnelles, comme profondément irrationnelles des différentes des croyances qui se forment dans nos propres sociétés, bien, la thèse très forte de Durkheim, c'est que ces croyances ne se forment pas selon des processus différents, des mécanismes qui sont en œuvre dans nos sociétés. En réalité, le primitif, comme nous, émet des conjectures sur l'existence ou la non-existence de relations causales qui ne sont pas forcément plus fragiles ou moins fragiles que celles que nous émettons nous-mêmes. Alors cette théorie du Durkheim, elle est scientifiquement très supérieure à celle de Lévi-Bruhl. Pourquoi ? Elle est très supérieure pour une première raison. D'abord, parce qu'elle n'inclut que des propositions très simples, et par conséquent acceptables. Elle inclut d'abord des propositions factuelles irrécusables. On observe dans les sociétés primitives tel rituel. Les primitifs ignorent tout des théories physiques qui ont été développées par les sociétés occidentales, etc., etc. Propositions factuelles irrécusables. La théorie se compose ensuite de propositions de caractère épistémologique, si vous voulez. L'opération de traduction d'une corrélation en proposition causale est souvent délicate, c'est une vérité. Quand une théorie est contredite par les faits, on peut souvent la sauver par des hypothèses auxiliaires, toute l'histoire des sciences nous le confirme. Ces propositions sont parfaitement acceptables. Proposition psychologique, il est coûteux de devoir se débarrasser d'une théorie. On n'abandonne pas une théorie qui fait l'objet d'une croyance collective sans raison contraignante. On abandonne plus facilement une théorie quand on dispose d'une théorie alternative. Voilà, toutes ces propositions sont des propositions très simples et qui pourraient servir aussi à décrire de manière très simple le fonctionnement de la vie scientifique moderne. Donc c'est d'abord parce que toutes les propositions incluses dans la théorie de Durkheim sont faciles à accepter qu'elle apparaît comme valide. Sa théorie apparaît d'autre part comme congruente avec la plupart des grands faits que nous connaissons à propos de ces phénomènes de magie. Il a même réussi à fabriquer une théorie qui nous permet d'expliquer facilement des phénomènes très énigmatiques qui n'ont surgi à la conscience, à la connaissance, que postérieurement, bien postérieurement, à la publication des formes élémentaires de la vie religieuse. Le phénomène de la magie varie, le phénomène des croyances magiques varie énormément dans le temps et dans l'espace. Armé de la théorie de Durkheim, on explique facilement la plupart des différences qui ont été observées par les sociologues et les historiens à propos de la variation dans le temps et dans l'espace de ces croyances magiques. Ainsi, on sait par exemple, concernant les sociétés archaïques, on sait qu'il y a des sociétés archaïques où les croyances magiques sont très nombreuses, très développées, et d'autres où, au contraire, elles sont pratiquement absentes. Elles sont pratiquement absentes dans la Grèce ou dans la Chine classique. Eh bien, ceci peut facilement s'expliquer à partir de la théorie de Durkheim parce que la religion de base de ces sociétés tourne autour d'un concept, le concept de cosmos, qui en grec veut dire, vous le savez bien, à la fois l'harmonie, le monde, la beauté, etc. Donc l'idée de base, l'idée religieuse de base dans cette société, et c'est la même chose en Chine, c'est que l'ordre du monde est le produit de lois immuables. À partir du moment où l'ordre du monde est le produit de lois immuables, il n'y a pas de place pour les forces magiques, il n'y a pas de place pour des rites qui viendraient influencer les causes de l'ordre du monde et qui en perturberaient le cours. En revanche, vous savez très bien, les opéras de Wagner le démontrent, vous savez très bien, au contraire, que les religions germaniques, autres sociétés archaïques, sont pleines de croyances magiques. Pourquoi ? Parce que la religion germanique est une religion qui est constituée à partir d'un ensemble de forces irrationnelles, capricieuses, qui sont supposées présider à l'ordre du monde. Donc, on explique très très bien le fait qu'il y ait certaines sociétés archaïques qui présentent une forte fréquence de croyances magiques, d'autres non, à partir de la théorie de Durkheim. On explique très bien aussi un phénomène extrêmement curieux qui n'a été véritablement repéré en réalité qu'après la Seconde Guerre mondiale grâce aux travaux d'un certain nombre de chercheurs, d'historiens de ces phénomènes de croyances irrationnelles, surtout britanniques, français ou américains. Ce qu'on a constaté, c'est que si vous considérez l'Europe de la fin du Moyen-Âge, les croyances dites irrationnelles au sens populaire du terme sont fort peu répandues. En revanche, les croyances irrationnelles, la magie, la sorcellerie, réapparaissent avec vigueur au XVIe siècle. Donc vous avez ce phénomène très curieux que les croyances irrationnelles, la magie, la sorcellerie, très peu fréquentes à la fin du Moyen-Âge, font une réapparition brutale avec le moment où la science réapparaît, avec la modernité, avec le XVIe siècle. D'autre part, si vous regardez la distribution géographique de ces croyances magiques au XVIe siècle, vous apercevez que les régions où les croyances magiques sont les plus fortes sont les régions de plus fort développement intellectuel et économique. Autrement dit, vous avez très peu de croyances magiques ou de croyances irrationnelles en général en Espagne, mais vous en avez beaucoup en Italie du Nord, beaucoup plus en Italie du Nord qu'en Italie du Sud. Vous en avez beaucoup dans le couloir rhénan qui est un grand lieu de passage au XVIe siècle de la modernité. Vous voyez que ces faits sont parfaitement contradictoires avec les théories de Lévi-Brull. S'il y avait une évolution de la pensée vers davantage de rationalité, pourquoi est-ce que le 15e siècle paraîtrait comme plus irrationnel que le 16e ? Pourquoi est-ce que les croyances irrationnelles apparaîtraient-elles plus fréquentes au 16e siècle qu'au 14e ? Avec la théorie de Durkheim, on n'a aucune difficulté à expliquer ça. Ce qui se passe, c'est qu'au 14e siècle, le fond philosophique interprétatif de toutes sortes de choses, c'est la philosophie aristotélicienne, reprise par les penseurs chrétiens. Or, la philosophie aristotélicienne est une philosophie qui se caractérise, je m'excuse de dire ça peut-être à des philosophes professionnels, et je simplifie beaucoup ici, mais l'aristotélisme se caractérise par le fait que, par un grand prosaïsme, par une valorisation très forte de ce qu'on voit, et un refus très accentué de ne pas prêter existence à ce qu'on ne voit pas. Aristote considère que les mythes doivent être traités comme des mythes et pas du tout pris au pied de la lettre. Avec la fin du Moyen-Âge et la Renaissance, Aristote passe assez brutalement pour une vieille lune. Et dans ce type de conjoncture, qu'est-ce qui se passe? Quand un philosophe ou quand une pensée apparaît soudainement comme brutalement discréditée, eh ben, on va chercher son concurrent immédiat. Et le concurrent immédiat d'Aristote, c'est naturellement Platon et le néo-platonisme, qui connaissent au XVIe siècle une vogue absolument considérable. Lire Platon, être néo-platonicien à cette époque, c'est le signe de la modernité. Or, par différence avec la pensée d'Aristote, et là aussi je suis évidemment très grossier, mais mon problème est seulement de me raccorder avec la théorie de Durkheim, la pensée de Platon est au contraire une pensée qui a tendance à privilégier ce qu'on ne voit pas par rapport à ce qu'on voit. Le mythe de la caverne, etc. La vérité, c'est ce qu'on ne voit pas. Et le monde est un monde d'apparence. Eh bien, cette modification de la pensée philosophique globale qui apparaît au XVIe siècle ouvre beaucoup plus facilement que la pensée aristotélicienne la porte aux croyances irrationnelles. Et ceci explique que vous ayez, à partir du XVIe siècle, et ça va durer jusqu'au début du XVIIIe siècle, jusqu'au premier tiers du XVIIIe siècle, vous aurez une très forte expansion des croyances dites irrationnelles. Vous le voyez très bien, par exemple, vous savez très bien que les films de Dreyer, qui traitent beaucoup de ces croyances irrationnelles, se situent au XVIIe siècle, pas au XIVe siècle, Dies Irae, etc. Donc, vous voyez, cette théorie de Durkheim permet d'expliquer toutes sortes de choses qu'on explique extrêmement difficilement autrement. Il y a là une sorte de révolution de la pensée dans cette théorie de Durkheim, j'y ai incité beaucoup pour ça, qui consiste à partir du principe que les croyances, même apparemment les plus irrationnelles, les plus bizarres, les plus étranges, eh bien, si on veut les analyser de manière scientifique, il faut les analyser comme des croyances rationnelles. J'essaierai de montrer que cette proposition un peu choquante, en tout cas paradoxale, peut être appliquée à d'autres cas que j'évoquais en commençant. Je prendrai par exemple le cas de l'exception religieuse américaine. L'exception religieuse américaine, c'est un phénomène qui a énormément intrigué, je vous l'ai dit, dès le XVIIIe siècle et qui continue d'intriguer beaucoup aujourd'hui. Chacun peut observer en regardant son écran de télévision que le président des États-Unis évoque normalement Dieu. Chacun constate que les billets verts comportent une évocation de Dieu. En d'autres termes, il y a des phénomènes comme cela qui sont connus de tous et qui montrent bien que les États-Unis ont un rapport à la religion, les citoyens américains ont un rapport à la religion qui n'est pas le nôtre. Je donnerai tout à l'heure des faits qui confirment cette impression. Alors cette exception religieuse américaine, elle a toujours été considérée par les sociologues et par tout le monde, mais principalement par les sociologues, parce qu'il leur appartenait d'essayer de l'expliquer, comme profondément énigmatique. Pourquoi profondément énigmatique? Parce que on ne peut pas faire abstraction de l'espèce de loi évolutive qui a été repérée par Auguste Comte, qui a été repérée par Tocqueville, qui a été repérée par Durkheim, par Max Weber, sous le nom de désenchantement du monde. Si vous regardez les sociétés occidentales, il y a une tendance longue qui consiste à évacuer les explications qu'on donnait du monde à partir des esprits et à imposer un mode de pensée où toute explication de quelque phénomène qu'il soit ne soit acceptable qu'à partir du moment où elle repose sur la mise en évidence de causes matérielles. Refus de l'explication par les causes finales, refus de l'explication par les esprits et légitimité, au contraire, de l'explication par les causes matérielles. C'est ce qui définit la science, bien entendu. Bien. Alors, les États-Unis ne sont pas un pays arriéré du point de vue scientifique. La science y est très développée. D'autre part, les valeurs, tout le monde sait bien, enfin, cela a été admirablement décrit par Tocqueville, tout le monde sait bien que le matérialisme, le pragmatisme sont des valeurs très fortes dans la société américaine. Donc, s'il y a une société qui aurait dû illustrer la loi évolutive énoncée par Auguste Comte, par Weber, le désenchantement du monde, eh bien, la première société qui aurait dû manifester, illustrer cette loi, c'est la société américaine. Or, la société américaine apparaît dès le XVIIIe siècle comme exceptionnellement religieuse et comme le restant aujourd'hui. Pour vous donner quelques indications, je suis sociologue, je ne peux pas me contenter tout de même d'In God We Trust, ni des évocations du président Bush. Il y a eu une enquête très récente, qui date de quelques années, une enquête comparative sur toute une série de pays où on a interrogé les gens sur toutes sortes de choses et normalement sur leurs croyances religieuses. Eh bien, quelques exemples. Croyez-vous en Dieu ? Croyez-vous en Dieu ? Dans un échantillon représentatif construit selon les règles de l'art, croyez-vous en Dieu ? 51% de personnes disent oui en France. 95% aux États-Unis. Croyez-vous au ciel ? 28% des personnes interrogées répondent oui en France. 89% aux États-Unis. Vous voyez, la différence n'est pas mince. Croyez-vous à l'enfer ? 14% en France, l'enfer n'a plus guère la cote. 74% aux États-Unis. Croyez-vous à la résurrection ? 27% en France, 65% aux États-Unis. Quand on regarde ces chiffres, la France, l'Allemagne, la Suède, même l'Italie sont très proches. Et puis vous avez cette exception religieuse américaine qui continue de mériter son nom. Alors, comment expliquer ça ? Certainement pas par des forces culturelles. Parce que si vous cherchez une explication par les forces culturelles en question, c'est quoi ? C'est le matérialisme, le pragmatisme, le goût de l'argent, etc. Ces forces culturelles, elles devraient jouer un rôle d'élimination de la religiosité. Par conséquent, vous voyez bien un autre cas où l'on voit immédiatement que toutes les explications de ce phénomène par les forces culturelles sont scientifiquement des explications qu'il est assez difficile d'expliquer. Dès le XVIIIe siècle, on s'est penché sur la question, parce que le phénomène de l'exception religieuse américaine apparaît dès le XVIIIe siècle. Dès le XVIIIe siècle, on s'est penché sur la question, et cette explication par les forces culturelles a été rejetée dès le XVIIIe siècle. L'énigme est aujourd'hui, en fin de compte, pratiquement résolue. Elle est résolue par la fabrication d'une théorie polycéphale. Que nous devons à trois responsables. Le premier est très ancien. C'est Adam Smith. Adam Smith, l'Écossais, se pose la question, il est absolument éberlué de voir qu'alors que ses concitoyens anglais tendent vers l'athéisme, les Américains sont au contraire extrêmement religieux. Et il fournit un premier élément d'explication. Son explication, c'est que la structure de l'offre religieuse n'est pas la même en Angleterre et aux États-Unis. Elle n'est pas la même en ce sens qu'en Angleterre, vous avez essentiellement une structure caractérisée par une église monopolistique. Aux États-Unis, au contraire, ceci résulte tout simplement du fait que le pays a été constitué par une agrégation de vagues d'immigration successives. Aux États-Unis, au contraire, la structure de la religion correspond à un ensemble de sectes. Comme vous le savez, le mot secte n'a aucune connotation négative pour un Américain. Car la secte, c'est le mode normal d'existence des institutions religieuses. Eh bien, dit Adam Smith, qui est un grand économiste, mais qui est aussi un très, très grand sociologue, il dit, voilà, je tiens l'explication. Quand un Anglais considère que tel point du dogme ou que tel précepte moral ne lui convient pas, et ne lui convient pas au point de mettre en doute la foi qu'il accorde à sa religion, qu'est-ce qu'il peut faire, l'Anglais en question ? Eh bien, il peut simplement quitter la religion et devenir athée. Soit vous restez dans votre religion, soit à partir du moment où vous êtes en désaccord, vous la quittez. Dans une situation de monopole, lorsque vous avez un fournisseur monopolistique, vous ne pouvez que soit vous soumettre à ses services, soit le quitter et passer à autre chose. Aux États-Unis, au contraire, nous dit Adam Smith,
dès que vous êtes en désaccord avec un précepte moral particulier ou avec un point du dogme, ce n'est pas très difficile. Vous allez trouver une secte voisine. Il y a toujours dans toute communauté américaine plusieurs sectes qui sont représentées et qui conviendront mieux à ce que vous souhaitez. Autrement dit, l'offre religieuse, c'est une analyse d'économiste, l'offre religieuse américaine est concurrentielle. De telle sorte que si vous n'êtes pas d'accord avec tel point du dogme, eh bien vous allez trouver... C'est très désagréable de quitter complètement votre religion. Vous allez plutôt chercher à trouver une secte qui vous conviendra mieux. Cette explication de Smith, elle date du XVIIIe siècle, mais elle est toujours très utile. Elle nous permet de comprendre, par exemple, si vous regardez, les sociologues ont fait toutes sortes d'études comparatives sur le développement de l'athéisme, et on s'aperçoit que le record de l'athéisme, le record de l'irréligiosité dans les pays occidentaux, est détenu de très loin par les pays scandinaves. Par rapport aux pays scandinaves, la France apparaît comme un pays très religieux. Pourquoi ? Eh bien, vous pouvez appliquer la théorie d'Adam Smith. Les pays scandinaves sont des pays, si vous prenez la Suède ou si vous prenez la Norvège, ce sont des pays qui sont à 95% luthériens. Il n'y a aucune diversité dogmatique, aucune diversité des églises. Il y a une situation parfaitement monopolistique de l'église luthérienne. Et d'autre part, vous n'avez pas de séparation de l'église et de l'État. Donc, non seulement vous êtes dans une situation de monopole, mais dans une situation où vous n'avez pas de séparation de l'Église et de l'État. Ceci explique sans doute que les pays scandinaves détiennent les records absolus de l'athéisme dans les pays occidentaux. Mais la théorie d'Adam Smith n'explique l'exception religieuse américaine que partiellement. Tocqueville, dans la deuxième démocratie en Amérique. Il y a deux démocraties en Amérique, celle de 1835, celle de 1845. Dans la deuxième démocratie en Amérique, Tocqueville fournit une théorie scientifique tout à fait, de caractère tout à fait moderne de l'exception religieuse américaine et qui n'est pas en contradiction avec celle d'Adam Smith, mais qui vient au contraire s'articuler sur la théorie d'Adam Smith, qui est complémentaire. L'idée de Tocqueville, c'est que la différence de structure entre les églises des pays européens et les sectes américaines a eu d'autres effets que ceux qu'a identifié Adam Smith. Le caractère monopolistique ou quasi-monopolistique de l'église catholique en France ou de l'église luthérienne dans l'Allemagne de la fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle fait que ces églises ont joué un rôle politique très important et qu'elles sont rentrées en conflit presque naturellement en raison de leur force avec l'État. Vous avez eu en France une lutte entre l'Église et l'État qui commence avec la Constitution civile du clergé et qui se prolonge très longtemps. En Allemagne, et pour les mêmes raisons, vous voyez apparaître l'épisode très important dans l'histoire allemande du Kulturkampf. Aux États-Unis, vous avez un émiettement de sectes religieuses. L'émiettement est tel qu'aucune de ces sectes, même les plus prestigieuses, même les plus importantes, aucune de ces sectes ne peut prétendre faire concurrence avec l'État. Donc vous n'avez pas eu de Kulturkampf aux États-Unis, vous n'avez pas eu de constitution civile du clergé. L'idée même de l'opposition ou du conflit entre Église et l'État est une idée qui n'évoque rien, pas grand-chose dans l'esprit d'un Américain. Le résultat, c'est que comme il n'y a pas eu ce conflit entre Église et l'État, il n'y a pas eu l'évolution que vous avez constatée par exemple en France ou en Allemagne. Le résultat du conflit en France ou en Allemagne, c'est que l'État s'est approprié un certain nombre de grandes fonctions sociales qui auparavant étaient détenues par les églises, par l'Église. Pensez par exemple aux institutions de charité ou aux institutions d'éducation, aux institutions de santé. Eh bien, si vous pensez un instant à la France du XVIe, XVIIe siècle, toutes ces fonctions sont dans une très large mesure assumées par l'Église. Puis, vous avez vu les épisodes que vous connaissez, et un phénomène de dépossession ou de quasi-dépossession de l'Église par rapport à ses fonctions. Le même phénomène s'étant produit en Allemagne. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Le résultat, c'est que ces grandes fonctions health, education, welfare, comme disent les Américains, la santé, l'éducation, la solidarité, ces grandes fonctions sociales sont restées, dans une très large mesure, dans les mains des églises. On ne le sait même pas, mais elles sont restées dans les mains des églises. Par exemple, le nom de l'une des plus grandes universités américaines, Harvard, ben comme chacun le sait, Harvard, c'est le nom d'un pasteur qui a fondé l'université en question. C'est surimposé à ces mécanismes le fait que l'État américain, de par sa structure fédérale, est un État beaucoup plus faible et qui, par définition même, par constitution même, est un État qui ne cherche pas à s'approprier toutes sortes de fonctions sociales et qui, au contraire, préfère les laisser à d'autres quand d'autres sont capables de les gérer. Ceci vous explique que le citoyen américain est dans un environnement institutionnel complètement différent de l'environnement institutionnel du citoyen allemand ou du citoyen français ou du citoyen britannique, c'est-à-dire dans sa vie de tous les jours, l'hôpital, l'église, l'hôpital, etc., l'hôpital, l'école, etc. Dans sa vie de tous les jours, il rencontre des institutions à base religieuse dans un passé plus ou moins lointain. Deuxième chose, deuxième mécanisme très important, qu'identifie Tocqueville, et qui est aussi une conséquence du caractère sectaire, du caractère éclaté de la religion américaine. Comme la religion américaine est très éclatée, le résultat de ça, ça a été un effet inattendu d'une importance considérable. Comme les sectes se distinguent entre elles par des points de dogme, si elles accentuaient les points dogmatiques, elles se battraient entre elles. Et comme elles préfèrent coexister plutôt que se battre, on a tendance à privilégier les aspects moraux de la religion par rapport aux aspects dogmatiques. C'est pourquoi, ce qui vous permet de comprendre que le protestantisme américain soit un protestantisme de caractère beaucoup plus moral et beaucoup moins dogmatique que, par exemple, le protestantisme allemand ou le protestantisme scandinave. Ceci a eu un effet d'une importance considérable. Comme le protestantisme est considéré essentiellement comme une doctrine morale, beaucoup plus que dogmatique, il n'y a pas eu de concurrence entre la science, cette fois-ci, entre la science et la religion. Tant que vous considérez les aspects dogmatiques d'une religion, eh bien c'est ce qui s'est passé en France, en Allemagne pendant tout le XIXe siècle, la religion est rentrée en conflit avec les progrès de la science. Aux États-Unis, à partir du moment où la religion a pris surtout un caractère moral, ce conflit n'a pas du tout existé, ou a existé dans une mesure beaucoup plus faible. Ceci vous explique que la relation du citoyen américain avec sa religion soit tout à fait différente. Ceci vous explique que la plupart des savants américains se considèrent comme religieux, parce que la religion, pour eux, c'est une doctrine essentiellement morale, beaucoup plus que dogmatique. Troisième élément de cette théorie polycéphale a été énoncé par Max Weber quand, en 1901, il fait un voyage aux États-Unis. La première chose qui l'éberlue, lui aussi, c'est la présence, la très forte présence de la religion dans cette société extrêmement matérialiste. Il connaît Adam Smith, il connaît Tocqueville, et lui aussi vient apporter une pierre complémentaire à l'édifice. Et cette pierre complémentaire est la suivante. Les États-Unis, en raison du fait qu'ils sont fondés sur un mythe égalitaire, insistent fortement, ceci étant très vrai, surtout au début du siècle, au début du XXe siècle, ils insistent beaucoup pour neutraliser les symboles de stratification. Il n'y a pas aux États-Unis de décoration. Le président des États-Unis s'habille en confection et ne se fait pas tailler ses costumes sur mesure depuis toujours. Enfin, le mythe égalitaire des États-Unis. Le résultat, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas aux États-Unis, dit Max Weber, vous ne savez pas du tout à quelle partie de la société, à quelle strate sociale il appartient. Tandis que dans l'Allemagne de l'époque, le chapeau que vous portez trahit immédiatement l'épaisseur de votre portefeuille. En France, dit Max Weber, qui s'amuse un tout petit peu sur le sujet, si vous voulez identifier la place des gens dans les sociétés, eh ben regardez le côté gauche de leur revers. Et vous pourrez immédiatement discerner, le placer, une personne que vous ne connaissez pas, dans l'espace de la stratification. Aux États-Unis, ça n'existe pas. Mais quand vous rentrez en relation avec quelqu'un, quand vous avez une relation impersonnelle avec quelqu'un, vous avez l'interaction avec ce quelqu'un va être grandement facilitée si vous savez le situer dans l'espace social. Eh bien, nous dit Weber, ce qui va permettre de le situer, c'est son affiliation religieuse, qui est facile à repérer assez facilement. Pourquoi ? Eh bien, parce que les vagues d'immigration qui ont formé les États-Unis sont successives, et celles qui sont arrivées les premières sont celles qui appartiennent au haut de l'échelle de stratification. Les vagues les plus anciennes sont méthodistes, et ce sont également eux qui appartiennent en haut du système de stratification. Si bien que si vous savez que quelqu'un est presbytérien ou s'il est méthodiste, vous pouvez vous dire, sûrement il est au minimum classe moyenne. En revanche, s'il est catholique, bien entendu, vous aurez tendance à le placer plus bas. Voilà. L'idée de Max Weber, c'est que la présence de la religion dans la vie sociale américaine est également renforcée par le fait que l'appartenance religieuse est également un puissant signe qui permet de réguler les relations interpersonnelles. Je me contenterai, je vois que le temps s'est écoulé, et je pourrais facilement montrer, je vous dirai simplement maintenant ce que je ne dirai pas, c'est que... on pourrait montrer très facilement que toutes sortes d'autres types de croyances, j'évoquais en commençant par exemple les biais que les psychologues cognitifs mettent en évidence, le fait qu'on surestime fortement telle probabilité, qu'on sous-estime fortement d'autres probabilités. A priori, quand on voit que l'intuition est tellement défaillante par rapport à ce que nous dit le mathématicien, on a tendance à donner une interprétation irrationnelle de ces croyances. Et bien là, je crois qu'on peut soutenir aussi qu'une interprétation rationnelle est beaucoup plus efficace. C'est-à-dire qu'on peut montrer que lorsque vous avez ces défaillances de l'intuition, et bien derrière ces défaillances de l'intuition, vous avez une théorisation, un effort de théorisation de la part du sujet pour rendre compte de problèmes qu'il ne maîtrise pas immédiatement et qui aboutissent à des diagnostics qui sont faux, mais à des diagnostics qui ne sont pas plus irrationnels que les diagnostics de l'aborigène d'Australie ou que les croyances de l'Américain. Eh bien, je vais m'arrêter ici. Tout simplement, ce que j'ai essayé de vous démontrer, c'est que l'un des grands acquis des sciences sociales dans leurs aspects les plus sérieux, c'est précisément ça, d'avoir démontré que toutes sortes de croyances qui nous paraissent à première vue comme des croyances étranges, comme des croyances irrationnelles, et qu'on a tendance à mettre sur le dos de forces culturelles, de forces très conjecturales, très souvent, il y a des explications beaucoup plus simples, beaucoup plus efficaces, à base d'une interprétation rationnelle du comportement. J'ai essayé de vous montrer sur ces exemples-là qu'on aboutit ainsi à des théories beaucoup plus solides. Je crois que dans le cas aussi bien de l'exception religieuse américaine que dans le cas des croyances des aborigènes d'Australie, les théories d'inspiration rationnelle sont beaucoup plus acceptables, beaucoup plus scientifiques au vu des critères qu'on utilise habituellement pour évaluer la scientificité d'une théorie que ces théories facilement produites par la sociologie spontanée et qui veulent que ces croyances soient d'origine irrationnelle. Ce changement d'interprétation a aussi des conséquences morales sur lesquelles je n'insisterai pas beaucoup. Si effectivement la causalité réelle de ces croyances irrationnelles, c'est une causalité de caractère rationnel, le fait qu'on ait tendance à les voir comme irrationnelles est lui-même un fait qui est tout à fait intéressant pour le sociologue, eh bien... Le fait que l'observation spontanée qualifie d'irrationnel des croyances qui sont probablement en réalité d'origine rationnelle traduit très probablement le fait qu'on a tendance à percevoir l'autre, qu'il s'agisse de l'Américain, qu'il s'agisse de l'aborigène d'Australie, à percevoir l'autre comme animé par des forces bizarres à partir du moment où il est différent de nous. Autrement dit, il y a aussi dans cette sociologie de type weberien ou de type durkheimien, il y a une grande force dans la mesure où il y a aussi implicitement une critique du sociocentrisme spontané. J'emploie ici le vocabulaire du grand psychologue, sociologue suisse Piaget. Il y a un sociocentrisme spontané de la perception de l'autre. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, c'était extrêmement passionnant. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de conflit entre la science et la religion aux États-Unis, mais comment expliquer le créativisme ? Enfin, je ne vois pas très bien ce courant de créativisme aux États-Unis est très fort, alors qu'en Europe, il ne l'est pas du tout.
Le créativisme, c'est une manifestation supplémentaire du fait que vous avez une génération très facile du phénomène de secte aux États-Unis. Oui. La question a été posée de l'apparition du créativisme aux États-Unis. Ce phénomène qui nous paraît effectivement très étrange vient du contexte général de la religiosité américaine que j'essayais de décrire, c'est-à-dire qu'il y a une quantité extraordinaire de sectes. Si vous allez dans un hôtel à New York, la première chose que vous verrez derrière le comptoir d'enregistrement, c'est la liste des églises ou des temples ou des édifices cultuels auxquels vous pouvez vous adresser le vendredi, le samedi, le dimanche, etc. Alors cette multiplicité qui existe depuis toujours a tendance à proliférer avec les vagues d'immigration, donc il y a une espèce de prolifération naturelle du phénomène des sectes et ça continue aujourd'hui. Et c'est très important, par exemple, pour voir l'attitude extrêmement différente des Américains à l'égard de l'Église de Scientologie. L'Église de Scientologie est considérée comme une secte religieuse parmi d'autres, parce que les Américains ne voient pas très clairement ce qui distingue cette secte particulière d'autres sectes. C'est pour ça qu'elle est protégée par le droit américain, et c'est pour ça que ça va jusqu'à des difficultés relativement sérieuses, par exemple, entre le gouvernement des États-Unis et le gouvernement de la République allemande, puisque, naturellement, l'Allemagne n'a pas du tout la même position.
Merci. Que feriez-vous si le sondage de tout à l'heure avait donné, en fait, les Américains comme étant les moins croyants ? Je me pose la question de... Non, mais je me pose la question du concept d'explication. On s'est interrogé, pour prendre juste rapidement un autre exemple, on s'est interrogé sur ce qui avait provoqué la Deuxième Guerre mondiale, enfin, du point de vue des Allemands. Finalement, il faudrait pouvoir se remettre dans une situation de laboratoire et avec les mêmes ingrédients, voir si l'Allemagne de 1933 aurait nécessairement donné ce qu'elle a donné. Qu'en pensez-vous ?
Je ne suis pas sûr de comprendre très bien la question. J'ai du mal à imaginer l'explication que je donnerais de fait qui sera contradictoire avec ce qu'on observe. Enfin...
Oui, je voudrais poser une question concernant les croyances collectives à la veille de la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. Effectivement, est-ce que des études ont été faites pour savoir ce qui a pu se passer pour qu'une société allemande très développée scientifiquement, universitairement, bascule aussi facilement dans le nazisme? Quel type de croyance collective peut permettre à une population dans une société moderne très développée basculer au rejet de l'autre?
Ça, c'est naturellement une question extraordinairement difficile. Je ne suis pas spécialiste de l'histoire du nazisme. Il me semble qu'il faudrait être spécialiste de l'histoire du nazisme pour y répondre. Simplement, ce qu'il faut voir tout de même, c'est que ce régime s'est tout de même installé sans doute à l'origine par le vote. Certainement, mais que immédiatement, dès que le vote a été acquis, il a fait usage immédiatement de la force brutale sous tous ses aspects d'intimidation, etc. Et à partir du moment où vous êtes dans une société où vous êtes intimidé profondément, à ce moment-là, on comprend que les réactions soient difficiles, de telle sorte que On peut très certainement pas dire que le peuple allemand en tant que tel est basculé. Tout simplement, la conjoncture économique extraordinairement difficile, le chômage, etc., l'espèce de déliquescence de la fin de la République de Weimar, le fait aussi que le traité de Versailles ait été peu accepté, qu'il était jugé injuste par bien des aspects, tous ces aspects dont on voit facilement comment ils peuvent donner naissance au ressentiment, eh ben, tous ces différents aspects ont fait qu'à un certain moment, le vote a porté des gens de sac et de corde au pouvoir. Et une fois que ces gens de sac et de corde ont été au pouvoir, eh bien, immédiatement, ils ont bien compris qu'ils n'auraient jamais le peuple allemand sincèrement pour eux. Et c'est pourquoi, immédiatement, ils ont utilisé la force la plus brutale.
Je voudrais finalement évoquer un problème un peu comparable à celui du nazisme. Vous avez assisté, n'est-ce pas, à la chute du communisme en URSS. Et, si vous voulez, il y a deux phénomènes. Il y a d'une part que, contrairement au nazisme qu'on a détruit, enfin qui a dû, il y a eu une guerre et il a dû abandonner sa prééminence puisque il a été envahi, l'Allemagne a été envahie. Vous avez dans le cas du communisme en URSS une chute spontanée. Il s'est installé, il a duré 70 ans, il a modifié les esprits dans un pays où il y avait une classe, comme on appelle, une intelligentsia très forte, et puis on n'a rien fait, il n'y a pas eu de guerre, il s'est effondré. Avez-vous une explication de sociologue ?
Alors deux choses, je répondrai deux choses. La première chose qu'on sait, c'est que les croyances, l'adhésion au communisme, apparaît pour autant qu'on puisse le savoir. Naturellement, dans ces pays-là, il n'y avait pas de sondage. La sociologie était considérée comme une science bourgeoise, comme une science interdite. Seule la cybernétique était supposée représenter les sciences sociales dans les pays communistes. Bien. Par conséquent, on ne sait pas très bien quel était l'état de l'opinion, mais il y a différents indicateurs qui semblent montrer que l'adhésion des gens au communisme, si vous prenez les démocraties populaires dans les années 50, était très faible. On le voit indirectement à certaines histoires. Par exemple, lorsque les Soviétiques lancent en 1960 le premier Spoutnik, c'était un événement scientifique considérable, eh bien, la réception du message par les gens des démocraties populaires, ça a été, très spontanément, tiens, voilà le dernier bobard de la propagande soviétique. Ce qui veut dire que très naturellement, les gens n'adhéraient plus. Naturellement, on ne peut pas savoir très bien quel était l'état de l'opinion. Alors, il y a les croyances d'un côté. Le sociologue vous répond que, bien sûr, il y a les croyances d'un côté, mais d'un autre côté, il y a de multiples autres facteurs qui expliquent l'installation ou, au contraire, la destruction d'un régime politique. Je parlais tout à l'heure de l'installation du régime nazi. C'est pas uniquement une affaire d'adhésion du peuple allemand. C'est aussi le fait que c'est certaines personnes qui arrivent au pouvoir et qui utilisent certaines techniques de violence pour maintenir le peuple allemand sous leurs bottes. S'agissant de l'écroulement du communisme, il est extrêmement brutal et la causalité occasionnelle, comme aurait dit le père Malebranche, très souvent on ne la voit pas. La causalité, pourquoi est-ce que le communisme s'écroule brutalement en 1990 et pas avant ? Certains disent la cause de l'écroulement du communisme, c'est que c'était un régime économique pas très efficace. Bon, d'accord, mais ça, on le savait depuis 1920. Et il y a eu des famines en Ukraine dans les années 20 qui suffisaient à démontrer l'inefficacité économique du système. C'était un régime qui, d'autre part, n'était pas très favorable aux droits de l'homme. C'est moins qu'on puisse dire. Bon, mais ça, on le savait aussi depuis Lénine. On sait très bien comment le canal de la mer Blanche a été creusé. Donc, si ces grands défauts était suffisant à expliquer la chute du communisme, eh bien, il aurait pu s'écrouler en 1920, 1930, 1950, 2040. Pourquoi est-ce qu'il s'est écroulé en 1990 et pas avant ou pas après ? Eh bien, la causalité occasionnelle est très claire, c'est l'initiative de défense stratégique du président Reagan. Parce que, à partir du moment où le président Reagan a lancé ce programme, qu'il a commencé à matérialiser sa volonté, le programme de défense, Strategic Defense Initiative, c'est-à-dire le programme de missiles antimissiles. On sait bien aujourd'hui que c'est un programme qui fait encore difficulté, qui techniquement est très difficile à réaliser, qui de toute façon coûterait très cher. Bien, mais au moment où il est lancé, et il y a des indications politiques qu'on va mettre de l'argent pour le développer et qu'on va chercher à le réaliser. À ce moment-là, les Soviétiques voient immédiatement que la course aux armements ne peut plus continuer. ça coûte trop cher pour l'Union soviétique. S'ils avaient essayé de faire la même chose que les Américains, la guerre froide avait été caractérisée par le fait d'une escalade permanente de l'arsenal militaire. Mais à partir du moment où vous avez le lancement de ce programme de missiles antimissiles, les Russes n'ont qu'une seule conclusion à tirer, on ne peut pas suivre. S'ils avaient essayé de suivre, le régime se serait complètement écroulé. Il n'y avait déjà pas beaucoup de routes et pas beaucoup d'hôpitaux, il n'y en aurait plus eu du tout. Donc le gouvernement soviétique a bien vu qu'il ne pouvait pas suivre. Donc la course aux armements s'est arrêtée. Les Russes ont dû dire « chaos, c'est fini ». Et à partir de ce moment-là, ça a été vraiment la cause très profonde de l'écroulement de l'URSS. Le reste, c'est plutôt des épisodes. C'est plutôt des épisodes. Mais on a été obligé à ce moment-là d'arrêter un jeu auquel on avait joué pendant 50 ans. On ne pouvait plus continuer de le jouer. À partir de ce moment-là, l'URSS a perdu son prestige. La division du monde en deux blocs a cessé, etc., etc. Donc voilà quelle serait ma réponse. Les croyances sont naturellement un des éléments, mais ce qu'on peut dire sans doute, c'est que depuis assez longtemps déjà, l'adhésion des citoyens de ces pays au communisme était devenue très faible et que ce n'est pas un facteur qui joue un très grand rôle en réalité dans l'écroulement du système.
Je voudrais que vous me donniez votre avis sur Monsieur Jung, Carl Gustav Jung. Ces théories ne me satisfont pas trop. Et je voulais savoir ce que vous pensiez du concept d'archétype et d'inconscient collectif.
Oui, je n'en pense pas, comme vous pouvez l'imaginer, grand bien, puisque c'est une matérialisation, une illustration particulière de toutes ces explications qui sont extrêmement nombreuses à partir de l'évocation de forces culturelles. L'inconscient collectif de Jung, c'est une version de ces forces culturelles. Alors, à mon avis, ce genre d'explication a toutes sortes de faiblesses. Premièrement, comme j'ai essayé de le montrer sur mes exemples, il est assez difficile de faire coller ce type d'explication avec les faits. D'autre part, ce sont des hypothèses extrêmement lourdes. Et troisièmement, ce sont des hypothèses extrêmement conjecturales. Si conjecturale qu'on ne sait jamais quand ces hypothèses cesseront d'avoir un statut de conjecture pour avoir un statut de confirmation. Le mouvement naturel de la science, c'est tout de même, à partir du moment où vous avez fait une conjecture, d'essayer d'obtenir des confirmations de votre conjecture. Pendant très longtemps, on a fait la conjecture qu'il existait des virus. Personne n'avait jamais vu un virus. On a fait la conjecture. Mais finalement, on a quand même fini par les voir, les virus, et par conséquent, par vérifier leur existence. S'agissant d'explications du type jungien, les forces conjecturelles qui sont évoquées pour expliquer les choses ont cette caractéristique qui est difficilement acceptable si on a un ethos scientifique, d'être irrémédiablement et définitivement et irréversiblement conjecturale.
Oui, s'il vous plaît, nous sommes dans une école de médecine, alors je voudrais savoir quelles explications vous donnez à la croyance collective en l'homéopathie qui n'est pas enseignée officiellement et qui est remboursée par la Sécurité sociale alors qu'il n'y a pas assez de capitaux pour les études scientifiques.
Ne pensez pas du tout que je cherche à fuir votre question, mais comme je suis complètement non informé sur ce dossier et que je ne suis informé que par les lectures des journaux, je m'en voudrais de vous donner une réponse qui n'aurait aucune solidité. Simplement, ma recommandation irait, si on fait des recherches sur les croyances en l'homéopathie, essayez de prendre le modèle de type Durkheimo-Weberien plutôt que le modèle jungien.
Je voudrais vous interroger sur deux formes de croyances collectives qui sont la rumeur et le bobard. Et je donnerai comme exemple de rumeur, disons la rumeur d'Orléans. Vous vous en souvenez, elle prétendait qu'à Orléans, les jeunes et jeunes clientes qui se rendaient dans les magasins de confection juifs risquaient, lorsqu'elles entraient dans le salon d'essayage, de se faire endormir, séquestrer et livrer ultérieurement à la traite des blanches. Et comme exemple de bobard, je me souviens que vers 1960, le bruit avait couru que la régie Renault bazardait ses 4 chevaux et qu'on pouvait, en se mettant à 10, en acquérir une pour l'équivalent de 5000 francs d'aujourd'hui. Et je me souviens qu'autour de moi, un grand nombre de groupes de 10 s'étaient formés et avaient chargé un des leurs de se rendre à la rue Renault et d'acquérir un lot de 4 chevaux. Bon. pourquoi je mets ensemble ces deux formes de croyances, l'une me paraissant la forme aggravée de l'autre, c'est qu'elle me semble mal répondre à l'interprétation de Durkheim, dans la mesure où il me semble qu'elle vienne à la rencontre d'une passion et non pas de la raison. C'est-à-dire, dans le premier cas, la rumeur vient à la rencontre d'un antisémitisme latent ou inconscient. Et dans l'autre cas, dans le cas du Bobard, du désir légitime d'un grand nombre de jeunes en 1960 d'acquérir des voitures qui, pour l'ordinaire, sont très largement au-delà de leurs moyens. Alors, que pensez-vous de la rumeur et du bobard?
Oui, alors la rumeur et le bobard, c'est un chapitre naturellement très important de la sociologie, sur lequel il y a de très importantes contributions. La ligne générale de l'analyse de ce type de phénomène, c'est le suivant. Premièrement, une proposition de Tocqueville qui dit « Nous croyons un million de choses sur la foi d'autrui ». Bon, il y a naturellement toutes sortes de sujets, un tout petit nombre de sujets sur lesquels nous sommes compétents, et puis une immensité de sujets sur lesquels nous ne le sommes pas. De telle sorte que si un médecin vient vous dire « voilà ce qu'il faut faire », vous allez avoir tendance à le croire parce que vous n'êtes pas vous-même médecin. Si un physicien vous dit « voilà ce qui se passe à propos de tel problème de physique », vous allez très spontanément avoir tendance à le croire. Donc, très souvent, ces bobards, ces rumeurs arrivent du fait que la source émettrice du bobard ou de la rumeur, premièrement, tombe sur des individus qui sont en état de non-préparation, qui ne connaissent pas la question, et d'autre part, proviennent d'une source qui, d'une manière ou d'une autre, a une certaine crédibilité. Bon, puis ensuite, La Fontaine l'a dit, il se produit un phénomène de diffusion de la rumeur. De telle sorte qu'on comprend très bien que vous pouviez avoir des théorisations extrêmement fragiles qui se répandent dans la société à partir du moment où la source émettrice a un minimum de crédibilité et où le public concerné est un public ingénu, je dirais. Alors, il y a eu par exemple des études extrêmement précises faites sur un épisode aux États-Unis. Orson Welles, à un certain moment, lance une émission où il dit à la radio « Voilà, les Martiens ont débarqué ». On ne me rappelle plus quand ça se situait, dans les années 50. C'est l'époque où on parlait des soucoupes volantes, tout le monde parlait des soucoupes volantes, etc. La radio vous dit « Les Martiens ont débarqué ». Les Martiens ont débarqué, et pas n'importe qui vous dit les Martiens ont débarqué, mais une figure très connue, la figure d'Orson Welles. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que beaucoup de gens ont commencé à quitter leur maison et à aller se promener sur les routes pour éviter les Martiens en question. Alors les sociologues, là, ont fait une étude extraordinairement minutieuse, plus minutieuse que celles qui ont été faites sur la rumeur d'Orléans. C'est pour ça que je prends plutôt cet exemple plutôt que celui que vous évoquiez. Eh bien, ce qu'on s'est aperçu, c'est que ceux qui avaient cru à l'invasion des Martiens étaient des gens qui étaient particulièrement ingénus. En revanche, il y avait une corrélation entre la probabilité de croire à l'invasion des Martiens et le niveau d'instruction. Ceux qui avaient un niveau d'instruction plus élevé, parce qu'ils étaient davantage probablement habitués à manifester l'esprit critique, en termes de fréquence, ont cru beaucoup moins. Ils n'y ont pas cru, en dépit du fait que ce soit la radio qui l'ait dit, en dépit du fait que ça a été dit dans le poste. Eh bien, ils n'y ont pas cru parce qu'ils avaient un niveau suffisamment d'instruction suffisamment important pour avoir une attitude critique. Et phénomène très intéressant, il y a un tas de gens qui avaient un niveau d'instruction très faible et qui n'y ont pas cru non plus. Alors, les sociologues se sont demandé, mais qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, ces gens qui, bien qu'ayant un niveau d'instruction très faible, ont refusé d'adhérer à la rumeur? Eh bien, on s'est aperçu que ceux qui n'y croyaient pas, c'était des plombiers, des mécaniciens d'auto, des gens comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a de commun entre un plombier et un garagiste? C'est que les plombiers et les garagistes, ce sont des gens qui n'ont peut-être pas nécessairement un niveau d'instruction très élevé, mais dont le quotidien est fait de diagnostics relativement compliqués sur les pannes. Vous observez un certain nombre de phénomènes, un certain nombre de... Au fond, le plombier ou le mécanicien auto, c'est un peu comme le médecin. il y a un certain, j'espère ne blesser personne dans cette noble maison, mais il observe toutes sortes de choses et il arrive à mettre les choses qu'il observe ensemble à partir d'une théorisation. Donc, c'est des gens qui, par leur métier, étaient habitués à faire attention, à critiquer ce qu'ils observaient. Ce n'est pas parce qu'on entend un bruit là que c'est nécessairement là qu'il y a une fuite. Et c'est pour ça que ces gens n'ont pas cru à la rumeur. Voilà quelques éléments. La sociologie des rumeurs et des bobards est un chapitre très intéressant. Voilà, très grosso modo, les lignes d'orientation de l'analyse. Vous voyez que ces lignes d'orientation épousent également une perspective beaucoup plus rationnelle qu'irrationnelle.
Vous avez dit à un moment, il me semble, qu'un développement économique correspondait souvent à des croyances magiques plus importantes. Or, je m'excuse de revenir sur les deux grands totalitarismes. Il semblerait que, là, au moins au début, à leur début, on a eu affaire à un grand fanatisme, donc à des croyances très fortes des peuples concernés, parce que l'explication aurait été justement un marasme économique, aussi bien pour la Russie en 1917 que pour l'Allemagne en 1918.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je me suis exprimé avec insuffisamment de nuances. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure en répondant, c'est qu'il n'y a pas simplement les aspects croyances qui expliquent l'installation du nazisme ou l'installation du communisme. Il y a aussi des facteurs politiques comme les techniques de violence utilisées par le pouvoir. Aussi bien, quand même aussi un point très important que ces deux pouvoirs, qu'il s'agisse du pouvoir communiste ou du pouvoir nazi, ont utilisé une violence absolument incroyable pour éliminer toute objection. Ceci dit, vous avez parfaitement raison. Il y a eu une adhésion, pas seulement chez les peuples en question. Nous savons tous qu'il y a beaucoup d'intellectuels français qui ont adhéré au communisme, par exemple, et qui ne sont pas... Qui sont des personnes qui ont manifesté ensuite leur haut degré d'intelligence. Alors, comment expliquer ces attitudes ? Eh bien... Comme vous le dites, je ne fais que répéter ce que vous avez dit. Il y a en Allemagne, à l'époque de la République de Weimar, il y a en France, à la même époque, une espèce de scepticisme extraordinairement répandu sur l'incapacité des gouvernements de la République à traiter des problèmes de fond, etc. Donc, une espèce de critique de la démocratie. C'est une époque où on n'a pas essayé de régime alternatif. Et il y a des pays qui commencent à mettre sur pied ou sur place des régimes alternatifs et on se dit à l'époque pourquoi pas. Donc il y a aussi, je ne fais que répéter ce que vous avez dit, des phénomènes d'adhésion qui se produisent au début du fonctionnement de ces régimes qui concernent, on ne sait pas très bien quelle partie de la population, mais sans doute une partie de la population assez importante, et qui s'explique en partie par des facteurs comme cela, insatisfaction avec l'État présent, insatisfaction avec l'État, avec le fonctionnement des institutions présentes, etc. Paris, dans des régimes qu'on n'a jamais vu encore fonctionner, des régimes qui sont parfois soutenus par des gens éminents. Rappelez-vous le recteur de l'Université de Fribourg, à l'époque, qui soutient le nazisme, un certain Martin Heidegger, qui est devenu, entre-temps, considéré comme l'un des plus grands philosophes. Donc, il y a tout ça. À la fois, une très grande incertitude sur ce qu'allaient être ces régimes, sur ce qu'ils contenaient, et puis, d'autre part, un sentiment d'insatisfaction sur la situation présente, explique sans doute qu'une bonne partie des gens, sans doute parfaitement respectables, aient fait un pari pour ces régimes qu'on connaissait mal et qui paraissait résoudre un certain nombre de difficultés des régimes qu'on connaissait.
Raymond Boudon, merci.